Vous écoutez
RMC. RMC, 4h30, 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
4h26, bon réveil à tous, bienvenue sur RMC. Et oui, ça y est, nous sommes en direct, nous sommes là, on vous attend au 32-16, le standard est ouvert. Quentin vous attend vos appels et on vous attend à l'antenne pour venir avec nous partager toute l'actualité, votre quotidien ce matin, vous qui nous écoutez. Peut-être déjà sur la route, peut-être déjà dehors, dans le froid, peut-être encore sous la couette, au chaud. Bonjour Anaïs Castagna.
Bonjour Charles Magnin, bonjour à tous.
Et bonjour Géraldine Demory.
Salut tout le monde.
Bon bah Géraldine,
ça y est.
C'est toi la une de l'actualité. Alors je sais pas comment on dit en termes météo, mais j'ai envie de dire ça caille sévère, ça y est.
Oui, il fait froid.
Voilà, on peut le dire comme ça,
il fait froid. Oui, c'est parti. Non, et fois, il va faire de plus en plus froid dans les prochains jours, hein. C'est vraiment que le début.
C'est que le début, donc bah, couvrez-vous hein, si vous sortez.
Col roulé.
Col roulé, bon, même tout ce que vous pouvez rouler, roulez-le. Là. Les gants, les chaussettes, même les collants, messieurs, pourquoi pas. Bref, là, c'est système D pour tout le monde face au froid. Racontez-nous d'ailleurs ce matin, quelle température là il fait par chez vous. Venez aider Géraldine Demory, parce que je vois Guillaume qui nous écrit déjà ce matin, gros brouillard du côté de la région bordelaise, à peine 3 degrés, voilà, il fait froid. Quelles sont les températures ce matin en France? C'est vous qui allez nous le dire, c'est vous qui êtes sur le terrain. Vous nous envoyez un petit message sur l'appli RMC avec Direct Studio, vous nous passez un petit coup de fil au 32-16, vous êtes nos yeux sur la route et vous êtes, j'allais dire, notre thermomètre partout en France. Vous n'hésitez pas à venir au 32-16. Et puis d'ailleurs, avec ce froid qui s'installe, il y a cette question qu'on se pose tous ce matin. Est-ce que vous aurez les moyens de vous chauffer correctement cet hiver?
Le porte-parole du gouvernement a de nouveau mis en garde hier. La production et la demande en électricité pourraient ne pas être totalement alignées certains jours de grand froid. C'est ce qu'a expliqué Olivier Véran, qui appelle les Français à faire des efforts de sobriété. Et pour payer vos factures, le gouvernement multiplie les aides ciblées après le chèque pour ceux qui se chauffent au bois. Ce sont les copropriétés et les HLM qui ont appris hier qu'elles allaient être couvertes par le bouclier tarifaire.
Et ben alors ce bouclier tarifaire qui va limiter la hausse de vos factures à 15% quand même à partir de janvier. Est-ce que vous avez fait vos calculs d'ailleurs à la maison? Est-ce que vous aurez les moyens de vous chauffer, j'ai envie de dire, comme vous le souhaitez, aussi bien que vous le souhaitez cet hiver? Est-ce que vous allez faire attention que vous vous chauffiez au gaz, à l'électricité ou au bois? Il y a les fameux pellets. Est-ce que vous en avez trouvé? À quel prix? Vous n'hésitez pas. Ce matin, vous prenez la parole au 32-16. Est-ce que vous avez adopté, des gestes de sobriété à la maison? Pas forcément pour des raisons d'approvisionnement en électricité ou d'écologie, mais tout simplement de pouvoir d'achat. Est-ce que vous vous chauffez aussi bien que vous le souhaiteriez? Combien il fait chez vous là ce matin? Si vous êtes encore à la maison, est-ce qu'on est vraiment à 19? Est-ce que vous chauffez toutes les pièces comme vous le souhaiteriez ou pas? Tiens, racontez-nous, Anaïs, Géraldine, est-ce qu'on a... On a mis le chauffage à fond à la maison, ou est-ce qu'on fait attention?
Non, on fait attention. Moi, je chauffe pas en journée, je chauffe juste un peu le soir.
Ah oui, donc la journée, tu coupes tout?
La journée, ouais, on n'a rien.
Et c'est électricité, bois?
Et c'est pompe à chaleur, donc c'est quand même assez économe. Et un peu de bois. Mais bois qu'on a pris au mois d'août, quoi. Donc ça va.
Ah, la prévoyance. Bravo, avant l'explosion. Bravo, Gérard.
Moi, j'ai du mal à m'en passer, j'avoue. J'ai mis le chauffage à la maison. Et voilà.
Ouais, moi aussi, j'ai un chauffage électrique. Et je le coupe jamais, en fait. Mais je le mets pas trop fort.
Non, moi non plus.
Donc il fait 18-19.
Après, c'est bien de faire comme ça. Parce que
En fait, c'est quand on coupe, j'ai l'impression que quand on rallume, ça consomme encore plus.
C'est ça.
Voilà, si je laisse descendre la température à 11 degrés dans l'appart, derrière, pour réchauffer, c'est une galère. Bref, à chacun ses petits trucs. Venez nous les raconter, vous, ce matin, au 32-16. Est-ce que vous avez fait vos calculs? Est-ce que vous aurez les moyens financiers, tout simplement, de vous chauffer correctement cet hiver? On vous attend au 32-16.
Et puis, on n'oublie pas tous nos rendez-vous. Dans mon choix, ce matin, à 5h10, je vais vous parler de ces Français qui cumulent plusieurs emplois pour réussir à boucler les fins de mois. Ils sont de plus en plus à le faire ou à l'envisager. 40% des actifs français y auraient déjà songé. On verra que ça va loin. Certains vont même jusqu'à cumuler 3, voire 4 jobs. On va aussi sourire grâce au meilleur d'Arnaud Demanche. On retrouvera Anthony Morel pour ses déjà demain. Manu Le Chypre pour l'économie et notre story Coupe du Monde avec Thibaut Texer.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
Il est 4h41, bon réveil sur RMC. Alors, aurez-vous les moyens de vous chauffer correctement cet hiver?
C'est la question du jour sur RMC.
Ça y est, nous sommes dans les normales de saison, comme le dit si bien Géraldine Demory, ce qu'on pourrait traduire par Ça y est, ça caille sévère. La France a froid ce matin et ça inquiète hein, chacun sur la manière de se réchauffer. Première inquiétude, d'abord, l'alimentation, l'approvisionnement en gaz et en électricité cet hiver, alors que le réseau électrique pourrait connaître des tensions. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a annoncé la couleur hier. Au mois de janvier, des efforts pourraient être demandés aux Français et aux entreprises.
Les semaines et les mois à venir vont être marqués par une hausse naturelle de la demande en électricité, particulièrement en raison des besoins de chauffage. Nous garderons à chaque fois les moyens d'éviter de recourir à des coupures en adaptant nos comportements. Et si nous sommes en territoire concerné par le risque, par exemple, il pourra nous être demandé, dans les horaires qui sont les plus demandeurs d'électricité, d'éviter de faire tourner le lave-linge ou de décaler un peu l'allumage de la plaque de cuisson pour éviter qu'on se retrouve dans des situations, même temporaires, qui sont plus délicates.
Voilà, t'as compris, Anaïs, faudra attendre minuit pour allumer les plaques et faire à manger.
Ouais, bien sûr. Ah,
mais ça va être ça, hein. On y va tout droit, en tout cas.
On a qu'à arrêter de vivre.
Ces journées tendues, faudra peut-être décaler l'allumage des plaques ou de la machine cet hiver, nous prévient le gouvernement. Allez-vous respecter, d'ailleurs, ce genre de consignes? Est-ce que vous avez déjà adopté des gestes de sobriété à la maison? On peut en parler. Mais au-delà de cette crainte de la coupure, il y a l'alimentation, ça sera au mois de janvier. Mais là, déjà, dès aujourd'hui, il y a l'inquiétude autour de la facture, du coût de l'énergie. Et le gouvernement multiplie les annonces d'aide ciblée pour les Français. Dernière aide en date, Anaïs, celle pour les Français qui se chauffent au bois.
Oui, les Français qui se chauffent au bois vont bénéficier d'une aide de l'État dès le 22 décembre, une aide destinée aux ménages qui se chauffent aux bûches et aux pellets, qui ont vu leur prix exploser ces derniers temps, plus 50% pour les pellets sur un an. Ce sera une aide de 50 à 200 euros destinée aux Français dont les revenus n'excèdent pas 2260 euros par mois pour une seule personne et 4750 euros pour un couple avec deux enfants.
Alors ça, c'est l'aide pour ceux qui se chauffent au bois, qui a donc été annoncée il y a deux jours. D'ailleurs, dites-nous au 32-16 si vous avez fait vos calculs, si vous allez en bénéficier de cette aide. Hein. Est-ce que vous avez trouvé du bois, là, des pellets pour vous chauffer cet hiver et à quel prix? Et puis pour les autres, Anaïs, ceux qui se chauffent au gaz et à l'électricité, il y a le fameux bouclier tarifaire.
Le bouclier tarifaire qui est reconduit pour 2023. Il permet de limiter la hausse des tarifs du gaz et de l'électricité à 15% pour les particuliers. Jusqu'à présent, les HLM et les copropriétés n'en bénéficiaient pas, mais ils vont être logés à la même enseigne dès le début de l'année prochaine. Annonce d'Olivier Klein, ministre délégué au logement hier, ce sera rétroactif. La hausse des charges cette année sera en partie compensée lors de la régulation en 2023. Ce sont les syndics et les bailleurs sociaux qui feront les demandes et qui devront redistribuer ensuite les sommes. Mais en attendant, les copropriétaires devront avancer les frais.
Ouais, exemple justement d'une copropriété qui est dans ce cas-là ce matin, à Toulouse, où des copropriétaires se retrouvent sans chauffage en raison de la hausse du prix du gaz, avec une facture multipliée par 8. Les copropriétaires n'ont pas voulu souscrire le nouveau contrat exorbitant et ont choisi pour l'instant de ne pas allumer le chauffage collectif. Reportage Jean-Wilfried Forquès.
13 degrés à l'extérieur et 1 degré de plus à peine dans l'appartement de Julien.
Alors dans l'appartement actuellement, il fait 14 degrés le matin.
Pour éviter d'avoir froid, Julien fait appel au système D.
Du coup, on essaye d'y arriver en ayant des petits soufflants ou des radiateurs à bain d'huile, en mettant des bonnets, en s'habillant chaudement.
D'autres copropriétaires, comme Caroline, ont décidé d'investir dans le tout électrique pour ne plus dépendre du chauffage collectif.
Donc nous, on a installé des chauffages électriques à énergie fine. Et aujourd'hui, on s'y retrouve largement entre l'augmentation du prix du gaz et celui de l'électricité, et même le coût de nos travaux.
En attendant, selon Marc Carsenac, le syndic de copropriété qui gère la résidence, la solution serait le bouclier tarifaire comme le propose le gouvernement, mais avec application immédiate.
Je pense qu'il faut plus de rapidité. Les gens, ils ont besoin du bouclier tarifaire aujourd'hui, pas dans un an, pas dans deux ans. Et ça, on ne sait pas quand c'est que on va avoir ce retour du bouclier tarifaire. Il y a urgence, oui.
Une nouvelle assemblée générale des 57 copropriétaires est prévue le 12 décembre prochain. D'ici là, les températures seront bien inférieures à 10 degrés.
Jean-Wilfried Forquès à Toulouse pour cette illustration, cette copropriété dans laquelle, clairement, on a froid en ce moment. Racontez-nous comment ça se passe là, par chez vous. Est-ce que vous avez allumé le chauffage? Est-ce que vous l'avez poussé un peu plus ces derniers jours? Est-ce que vous avez froid ce matin? Est-ce que vous aurez les moyens de vous chauffer correctement cet hiver? C'est vous qui allez nous le dire ce matin au 32-16. Tiens, on va accueillir Hubert, qui est du côté de Montpellier. Salut Hubert.
Salut Charles.
Comment ça va ce matin, Hubert?
Ça va l'équipe.
Eh ben ça va très bien. J'ai envie de vous demander d'abord quel temps il fait, enfin quelle température ce matin du côté de Montpellier. Eh ben, là.
Écoutez, à Montpellier hier on avait 15 degrés. Moi je fais beaucoup de marches, j'ai marché au soleil, je peux vous assurer j'étais en nage.
Ah vous avez de la chance, ouais, 15 degrés la journée, mais là le matin là à 4h46, ouais. Il fait frais, non?
Il doit faire 6-7, hein. Il fait pas des plus froids à Montpellier. Hein.
6-7, ça va encore. Oui, mais alors comment vous chauffez à la maison, là, Hubert, vous savez quoi?
Alors, et moi, voilà, je viens d'entendre là une histoire de copropriété à Toulouse.
Ouais.
Moi, je suis un chauffage collectif aussi.
Et alors, est-ce qu'ils ont rallumé ou pas encore?
Alors, je vous explique. Ils ont allumé très tard, d'ailleurs. Ils ont allumé, je crois, mi-novembre. Nous avons une sonde, c'est ce que nous explique le syndic, et nous avons une sonde qui marche avec la température, c'est-à-dire que quand il fait bon, cette sonde ne déclencherait pas régularise le chauffage.
D'accord, donc c'est automatique, ça évite le débat, en tout cas, il y a une température à partir de laquelle ça se déclenche.
Voilà. Moi, pour ma part, comme je vous dis sur mon message, je suis pas frileux du tout. Moi, ma chambre, déjà, elle est jamais chauffée. Je ne chauffe pas ma chambre. Il y a un endroit où il faut que ce soit chauffé. Pour ma part, c'est la salle de bain. La salle de bain, quand même, s'il y a de l'humidité, tout ça, il faut que ce soit chauffé. J'ai un petit chauffage à poêle électrique. On met ça en route 10 minutes, un quart d'heure avant de prendre la douche et après on l'arrête.
Voilà. Donc vous faites attention. Vous avez l'impression que c'est pareil autour de vous?
Ben écoutez, alors justement, je ne sais pas comment font les particuliers. Mais par contre, je suis allé dans un centre médical hier. Je vous assure, j'avais une doudoune. Ben, j'étais obligé de l'enlever dans la salle d'attente. Il s'était surchauffé.
Ah,
moi,
oui.
J'ai rien dit. Ben, par contre, là, on peut souscrire qu'il y a des malades et tout. Il faut que ce soit chauffé, quoi, qu'ils aient pas froid ou quoi. On peut penser à ça.
Ouais, mais ça me fait penser, moi, Hubert, c'est dans les centres commerciaux, dans les magasins aussi. Là, en ce moment, c'est vrai qu'il y a des endroits où on crève de chaud, tout simplement, quand on rentre dans un magasin. Parce qu'on a notre manteau, on est dehors, on rentre dans le magasin, il fait hyper chaud et il chauffe beaucoup plus qu'à 19 pour certains. Et clairement, il y a de la surconsommation. C'est un peu le même débat qu'avec la clim l'été, avec ces magasins qui poussent à fond la climatisation.
Exact,
voilà, c'est un peu la même question. On nous demande à la maison de faire des efforts et on voit des magasins qui mettent le chauffage à fond. Je sais pas si c'est pour attirer des clients, mais moi, ça m'arrive de transpirer dans des magasins parce que il y a une différence de température énorme avec l'extérieur. Vous avez raison de pointer ça, Hubert. À l'heure où on nous demande des efforts à la maison, mais pour vous, voilà, c'est chauffage collectif, le petit chauffage d'appoint dans la salle de bain. Voilà, c'est un peu la débrouille, mais je vous sens pas frileux, Hubert. Et puis vous avez la chance, vous le dites bien, d'être à Montpellier quand ça monte à 15 la journée. Oui, forcément, on n'est pas obligé de mettre le chauffage à fond toute la journée. Merci Hubert, en tout cas, d'être passé.
Charles, allez-y. Un petit mot perso pour vous.
Allez-y.
Je suis niçois d'origine.
Ah, bah alors félicitations, encore une qualité, Hubert.
Ouais, c'est pas si c'est de qualité.
Ah bah.
Parce que j'ai appris que vous étiez niçois.
Ma vie se partage entre Nice et le studio d'RMC à Paris. Donc,
super.
Hubert, et embrasser Montpellier de ma part aussi, parce que j'y passe aussi de temps en temps. Bref, voilà, on a fait le tour de France avec vous ce matin et ça nous fait très plaisir grâce à Hubert. Bon, ils ont de la chance, hein, 15 degrés la journée. Nous, ça fait longtemps qu'on n'a plus eu ça à Paris. Racontez-nous quelle température chez vous ce matin-là. Est-ce que vous avez mis le chauffage à la maison? Est-ce que vous l'avez mis à fond? Est-ce que vous faites attention? Est-ce que vous aurez les moyens de vous chauffer correctement cet hiver, que vous soyez au gaz, à l'électrique, en collectif ou au bois? Vous venez nous le dire ce matin au 32-16, on vous attend évidemment. Et puis à 4h49, on va regarder tout ce qui vous attend sur RMC dans quelques minutes. Il y aura la voix du jour, on va vous gâter juste après 5h. Il y aura aussi le choix d'Anaïs.
Je vais vous parler de ces salariés qui cumulent plusieurs emplois. Cariste le soir, agent d'entretien le matin ou encore serveur le soir, prof de sport dans la journée. Ils sont de plus en plus et c'est pas toujours de gaieté de cœur.
Ouais, c'est ce qu'on appelle les slasheurs, c'est ça, ces gens qui cumulent plusieurs boulots. C'est peut-être votre cas, tiens, n'hésitez pas à témoigner, hein. On va en parler juste après 5h avec Anaïs. Et puis tout de suite, toute la bande, toute l'équipe qui nous rejoint autour de la table pour ces petites histoires, les histoires de Charles Matin. C'est tout de suite sur RMC.
RMC, les histoires de Charles Matin.
Et oui, c'est l'heure des histoires dans Charles Matin. Toute l'équipe, toute la bande qui vient partager les petites infos en plus qu'elle a repérées. Bon, Anaïs est là, bien sûr. Arthur Asquin, notre producteur, vient de nous rejoindre. Salut Arthur.
Salut Charles, salut.
Quentin vient de poser son téléphone au standard.
Bonjour tout le monde.
Au studio. Salut Quentin. Et on commence, tiens, avec Géraldine Demory. Parce qu'en ce moment, Géraldine, de drôles d'oiseaux sont observés au bord de la Méditerranée.
Bah oui, tu connais bien le coin. En plus, Charles, d'habitude, sur les plages de Nice ou encore de Marseille, on peut trouver des mouettes, des mérous.
Et des cagoles.
Beaucoup de thons.
Oh
C'est qui a une espèce.
Mais des pingouins, bah ça, c'est plus surprenant.
C'est
le son du pingouin.
Ah bon,
depuis une semaine, on peut voir donc des pingouins dans la Méditerranée, de l'Espagne jusqu'aux Alpes-Maritimes. Alors on est d'accord, hein, les pingouins, ça vit normalement beaucoup plus au nord, jusqu'en Arctique. C'est vrai qu'ils ont l'habitude de descendre plus au sud en hiver, donc en trouver dans la Méditerranée en soi, c'est pas si étrange. Mais on en avait jamais vu aussi près des côtes. Les spécialistes savent pas très bien ce qu'ils font là, d'ailleurs. Alors c'est peut-être le réchauffement climatique, hein, qui les prive de nourriture, peut-être des tempêtes qui les ont chassés. Ils ont pas l'air d'avoir peur des hommes, mais à attention de ne pas les toucher si vous les croisez, d'autant qu'ils peuvent être porteurs de la grippe aviaire.
Ah oui, donc attention aux pingouins, mais oui, c'est en effet surprenant si vous croisez des pingouins, de Nice à l'Espagne en ce moment. Merci beaucoup, Charline, de nous avoir prévenus, en tout cas, de nous avoir alertés.
Puis dites-nous si vous en avez vu, surtout.
Oui, et puis on a hâte d'avoir l'explication, surtout.
Il va falloir attendre un petit peu.
Voilà, pour nous expliquer comment ces pingouins se sont retrouvés sur les plages de Méditerranée. Quentin du Standard, je me tourne vers toi. Tu veux nous parler de cette marque de luxe qui propose des cadeaux de Noël pour animaux de compagnie.
Eh oui, tout arrive. Alors, vous avez des animaux de compagnie autour de la table ?
Oui.
Moi, j'ai une chatte.
Moi aussi.
Est-ce que vous leur faites des cadeaux à Noël ?
Bon, elle a déjà des croquettes de luxe parce qu'elle mange que ça. Donc
Moi, je lui fais des cadeaux. On leur fait des cadeaux.
Ça fait plaisir.
Un petit joujou.
Et quel genre de cadeau ?
Un petit joujou, tu sais, un petit.
Bubble.
Ouais, mais en fait, il joue pas trop avec.
Ça reste basique. Si vous avez des envies un petit peu plus luxueuses que Géraldine, la marque Balenciaga, marque française de luxe, celle qui vendait des sacs genre Ikea, je sais pas si vous vous souvenez, à 1695 € pièce, un sac en plastique, eh bien, elle propose une sélection de cadeaux de Noël pour votre boule de poil adorée. Parmi les indispensables, comme les laisses ou les harnais, on peut trouver un panier à 1200 €. C'est pas précisé s'il est pour chat ou chien, donc vous pouvez y aller sans vous poser de questions. Et en plus, la couverture est incluse. Ils sont gentils.
À ce prix-là, c'est sympa. Ouais.
Il y a aussi une gamelle en inox à 750 €. Elle est pas très belle, mais bon, ça, c'est le goût et les couleurs. Ou encore un pendentif à 350 €. Oh. Et là, c'est bien précisé que c'est pour chien. Donc, si vous avez un chat, ne l'achetez pas, ça ne va pas lui plaire.
Non, mais là, bon,
c'est totalement ridicule.
Oui, tout est puis hors de prix et ridicule, mais il y a quand même vraiment des personnes comme. Comme Géraldine Demory qui dépense des sous pour acheter un cadeau à leur animal.
Non, mais attends, moi c'est un petit doudou à 4 €, ça va.
Bon, 4 € ça va, mais je crois que d'ailleurs que t'es pas la seule à acheter un cadeau.
Non, ça peut paraître exorbitant là les prix qu'on vient de donner, hein, mais selon un sondage, il y a quand même 52% des Français qui préfèrent offrir un cadeau de Noël à leur animal plutôt qu'à leur enfant.
Ah non, quand même.
Attention.
Ah, il y a débat, je réfléchis. Quel enfant
je sais que de nombreux Français considèrent leur animal comme leur enfant. Donc,
Oui, mais quand t'as un enfant.
Mais qu'il fasse partie de la famille, d'accord, mais c'est quand même pas pareil qu'un enfant.
Ah, il y a des jours où ma chatte m'énerve moins que mes enfants. Hein,
moi, j'ai qu'une chatte pour l'instant. Donc
plus de cadeaux.
Plus affectueuse. Ouais,
exactement. Quoique, les chats sont rarement reconnaissants. Ce sera un autre débat. 4h55. Tiens, Arthur Asquin, tu nous parles, toi, d'un petit miracle dans le golfe du Mexique.
Oui, ça s'est passé le week-end dernier. Un Américain de 28 ans et sa sœur embarque à bord d'un bateau de croisière à la Nouvelle-Orléans direction le Mexique. Peu après le départ, le jeune homme décide de se rendre aux toilettes, mais à ce moment-là, il disparaît.
D'accord, on a l'image, mais qu'est-ce qui lui est arrivé ?
Alors, il n'est pas tombé dans le trou, comme on dit, mais pour une raison encore inconnue, et ben il est passé par-dessus bord sans que personne s'en aperçoive. Sa sœur finit par prévenir l'équipage. Tout le monde s'est mis à le chercher à bord du bateau. Problème, c'est qu'il était en train de dériver tout seul au milieu de l'océan. 15 heures dans l'eau. Il a été enfin repéré par des avions et des hélicoptères dépêchés sur place. Il était dans un état stable, mais un peu fatigué.
Voyage crevant.
Ah oui, tu m'étonnes, voyage crevant. 15 heures tout seul dans le.
Oui, c'est un petit miracle, parce qu'en plus, il y a des requins, tout ça. Donc,
et puis, t'as le temps de réfléchir. Hein,
Il
n'y avait pas Candy Crush. Ça doit être 15 heures tout seul.
Juste de l'eau.
Dans l'océan, ouais, ça ressemble à un film, quoi, que ce serait un long plan séquence. Hein, tout seul, 15 heures dans l'océan. Oui, petit miracle, comme tu le dis, et même beau miracle, dans le golfe du Mexique. Allez, à 4h57, toi, Anaïs, tu veux nous parler de Claude François et d'un de ses titres, d'un de ses tubes les plus connus, qui s'offre une nouvelle jeunesse.
Une chanson dont vous connaissez forcément les paroles, Magnolia Forever. Refais un peu ta chemise, Charles. Alors ça c'est la version 77
sur laquelle
Charles donc s'ambiance dans le studio. Certains te diront peut-être que c'est pas très moderne. Eh bien qu'à cela ne tienne, le fils de Clo-Clo a commandé une nouvelle version avec des sons plus actuels.
C'est bien, on entend bien la grosse basse et tout, c'est club là.
C'est club, bah oui, c'est ça le but.
Ouais, on préférait un peu l'ancienne.
Ah bon, c'est pas mal. Vous risquez de l'entendre en boîte de nuit en tout cas.
Ah, moi, je préfère l'ancienne. On touche pas à un monument comme les Magnolia.
voilà, pardon.
Pardon, désolé. Je savais pas que c'était un sujet sensible.
C'est comme si on remixait du Johnny version techno et qu'on me disait, voilà, c'est plus sympa, c'est plus moderne et tout. Mais non, on change pas un classique comme ça.
Ouais. Surtout que c'est intemporel quand même.
Il y a des choses avec lesquelles on rigole pas et les Magnolias, enfants pour qui, Anaïs. Je suis désolé.
D'accord, désolé.
Et ça fait 3 minutes que je me dis, il ne faut pas que je fasse la transition avec les Claudettes en me tournant vers un Jean-Marie de Maurice.
Et tu vas quand même la faire.
Et ça y est, c'est fait.
RMC, 4h30, 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
Il est 5h10. Bon réveil à tous sur RMC.
RMC, Charles Matin.
Le choix d'Anaïs.
Anaïs, ce matin, tu as choisi de nous parler de tous ces Français qui cumulent plusieurs emplois. Ils sont de plus en plus nombreux et c'est pas toujours de gaieté de cœur.
Oui, tu sais comment on appelle celles et ceux qui cumulent donc plusieurs jobs, des slasheurs en référence à la touche slash de l'ordinateur. Ils sont caristes slash agents de sécurité, serveurs slash agents d'entretien ou encore chauffeurs VTC slash prof. C'est le cas de cet homme que BFM TV avait interrogé il y a quelques temps. Écoutez ce qu'il faisait après sa journée passée avec ses clients.
Là, il va bientôt être l'heure de prendre la route pour aller dans l'Essonne pour que je fasse mon cours de danse.
Choix, disait-il à l'époque. Écoutez.
C'est pas une contrainte, c'est un choix. Je me sens accompli, je me sens épanoui dans ce que je fais.
De nombreux Français font comme lui, Charles. Ils slash pour tromper l'ennui ou pour s'épanouir. Hein. Des jeunes surtout, tous les milieux sont touchés et certains cumulent jusqu'à 3 ou 4 emplois à la fois.
Oui, mais là, ça marche quand on entend ce chauffeur de VTC qui dit le soir, je donne des cours de danse, c'est presque un plaisir, un bonus, mais il y a de plus en plus de Français pour qui il n'y a pas d'autre alternative.
Oui, là, tu as raison, c'est la version cool du slasher qui enchaîne les boulots par choix. Mais avec l'inflation, de nombreux salariés français sont obligés de chercher un autre travail pour boucler les fins de mois. C'est ce que montre une étude menée par Qualtrics. 40% des salariés français disent avoir réfléchi à trouver un deuxième boulot pour joindre les deux bouts. C'est ce qu'a longtemps fait ce papa de 3 enfants interrogé par nos confrères de TF1 il y a quelques temps. Il était chef de rayon le jour, agent d'entretien 3 soirs par semaine pour 2000 euros en tout. C'est la seule manière qu'il a trouvé pour pouvoir offrir des vacances à ses enfants.
Et effectivement, c'est un budget, oui, d'avoir 3 enfants. Bon, après, bon, c'est un choix, donc on assume. C'est pour ça que, notamment, je travaille un peu plus, tout ça. Entre la nourriture, les habits, les activités sportives, les sorties, les vacances, tout est multiplié.
Lizzie, elle est étudiante, elle cumule plusieurs jobs pour essayer de s'en sortir, un emploi en librairie, elle donne aussi des cours dans plusieurs écoles de danse. Et même ça, Charles, ça suffit pas à remplir le frigo. C'est ce qu'elle a confié à nos confrères de Brut en mars dernier. Écoutez, elle est obligée de se priver.
Il y a un moment où c'était du pain. J'avais une baguette la moitié le midi, la moitié le soir, parce que ça coûte pas cher.
Est-ce que tu t'achètes des fois des fruits, des légumes ?
Rarement, parce que même j'ai même pas le temps en fait. Je travaille à fond pour essayer de gagner quelques sous, donc au final, des fois cuisiner, c'est le soir quand je rentre si je suis pas trop crevée.
Un phénomène qui touche pas mal de salariés du tertiaire, secteur où il y a beaucoup de bas salaires, mais aussi les transports, la restauration, l'aide à la personne, la sécurité, des métiers difficiles avec des horaires décalés. D'ailleurs, je suis sûre que vous êtes nombreux à pouvoir témoigner.
Oui, je pense aussi aux porteurs de presse qui nous écoutent et qu'on entend souvent le matin au 32-16. Alors justement,
qui sont souvent d'ailleurs des retraités. Alors là, c'est un autre sujet.
Oui, retraite et emploi complété. Alors compléter sa retraite... C'est le joli mot, dit compléter comme si c'était un petit peu de bonus. Mais parfois, on n'a pas le choix, on est obligé de bosser quand on est retraité. Et justement, tiens, pour ceux qui nous écoutent, quelles sont les règles ? Est-ce qu'on a le droit de cumuler plusieurs contrats de travail, plusieurs emplois en même temps ?
C'est possible si vous respectez la durée maximale du travail. Vous ne pouvez pas travailler plus de 10 heures par jour et 48 heures par semaine. Et il est préférable de recueillir l'accord de votre employeur parce que ça peut être un motif de licenciement pour faute grave, surtout si vous avez une clause de non-concurrence dans votre contrat. Si tel est le cas, attention, vous ne pouvez pas occuper un poste équivalent chez un concurrent, évidemment. Plus de 2,4 millions de Français cumulent plusieurs emplois, selon la dernière étude de l'INSEE parue en 2019. Mais c'est même bien plus, selon d'autres études.
Ouais, et dites-nous, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages ce matin au 32-16 ou sur l'appli RMC avec Direct Studio si vous faites partie de ces slashers, c'est dur à dire, qui cumulent plusieurs jobs par choix ou par contrainte, face à l'inflation notamment, plus que pour compléter, pour tout simplement réussir à boucler les fins de mois. Vous n'hésitez pas. Il est 5h14, on revient à l'actu numéro 1 ce matin, ce sont les températures. La France grelotte ce matin, la France a froid. Et oui, Géraldine Demory nous le disait, ça y est, la vague de froid s'est installée sur le pays. C'est des normales de saison, on arrive gentiment au mois de décembre, c'est normal qu'il fasse froid. Mais évidemment, cette année, c'est particulier, puisque qu'il y a ces craintes sur l'approvisionnement en énergie et sur les coûts de l'énergie. Alors vous nous racontez ce matin, est-ce que vous êtes certain de pouvoir vous chauffer correctement cet hiver ? Pascal a composé le 32-16 depuis les Alpes de Haute-Provence, c'est ça ? Bonjour Pascal.
Bonjour à toute l'équipe.
Alors Pascal, dites-nous où êtes-vous précisément d'abord dans les Alpes de
Haute-Provence? Alors je suis à Château-Arnoux, ça se trouve entre Digne et Sisteron.
Ok, ah bah très joli coin, mais où, mais où il fait frais?
Alors là, ce matin, il fait frais, ça caille un peu, ça est 2 degrés ce matin.
Ah oui, ouais. 2 degrés.
Je suis debout depuis 3 heures ce matin, il est 2 degrés.
2 degrés au cœur de la nuit à 3 heures quand vous êtes levé. Et du coup, voilà, comment ça se passe à l'intérieur à la maison? Comment vous vous chauffez? Est-ce que toutes les pièces sont chauffées?
Moi, à l'intérieur à la maison, je peux pas me plaindre parce que je me chauffe au bois. Donc, j'ai une température toute la nuit qui me tient mon appartement à 24 degrés.
24 degrés?
Maison. Ouais, 24.
Mais c'est très chaud.
Sans problème.
Oui. Mais c'est un choix de monter jusqu'à 24. C'est vous qui décidez.
Non,
de...
c'est-à-dire que vous pouvez pas réguler une cheminée. Je veux dire,
Vous mettez du bois et ça chauffe, quoi. Ok. Voilà. Parce que vous avez entendu les recommandations à 19 maximum, etc.
Oui, bon. Non, mais je m'en fous complètement.
Ok, bah c'est noté, Pascal.
J'ai un vieux poêle Godin qui date des années 50 que j'ai retapé complètement de A à Z, qu'on m'a donné, qui pèse 200 kilos de fonte. Je peux vous garantir que ça vous chauffe.
Oui, c'est efficace. Oui, mais est-ce que ça consomme pas trop? Est-ce que vous avez les moyens d'acheter le bois?
Alors, tout d'abord, c'est un poêle à double combustion, ça c'est une première chose, donc ça consomme très peu. Et puis, parce que les hommes dans les années 50 étaient encore intelligents, et le bois, alors par contre, est devenu une denrée rare.
Bah c'est cher, oui.
Ah oui, il y a 2 ans en arrière, moi je commande toujours mon bois en été, hein. Donc il y a 1 an et demi en arrière, j'ai commandé mon bois, je le payais 62 euros le ster, et j'avais que du chêne, que du chêne, sec, coupé, bûche 32, enfin etc.
Donc 62 euros la ster il y a 2 ans, le ster.
Voilà, il y a 2 ans.
Et aujourd'hui
cette année, 85 euros.
Oui, donc il y a une nette hausse.
Là, c'est pas du chêne, c'est d'un mélange de chêne et de frêne.
Et c'est moins bien ça?
Ah ben le frêne fait pas de braise, c'est ça le problème.
Ouais.
Alors voilà, il faut calculer que vous puissiez mettre le soir dans votre bûcher une grosse bûche de chêne pour que le matin vous puissiez rallumer. Ce matin, j'ai même pas eu besoin de rallumer, j'ai remis des bûches et puis c'est reparti.
Oui, mais bon, voilà, c'est un budget en tout cas supplémentaire pour cet hiver. Vous avez plus
85 euros le ster, oui.
Et vous en avez stocké assez là pour passer l'hiver?
J'ai pris 7 sters.
Et je me rends pas compte, ça suffit pour passer l'hiver, ça, Pascal?
7 mètres cubes.
Ok. Voilà. Donc ça va aller, mais c'est un budget en plus. Voilà, vous l'avez budgété, c'est déjà financé.
J'ai pas eu le choix.
Vous avez pas eu le choix. Vous avez raison de nous le dire, Pascal. Bon, vous avez eu les moyens de le financer cette année, tant mieux. Mais vous l'entendez, évidemment, ça va être ric-rac pour beaucoup de Français. Vous avez la chance, vous nous le dites, d'avoir en fait ce bon vieux réflexe, la chance d'avoir un vieux poêle à bois très efficace, visiblement, Pascal. Mais vous avez aussi constaté cette hausse de la facture en achetant votre bois et de moins bonne qualité. Vous nous le dites aussi, ça c'est important. Ce matin, Pascal, merci d'être venu témoigner de bonheur comme ça de votre chauffage, tout simplement parce que c'est la question que se posent toutes les familles en ce moment: comment chauffer correctement cet hiver sans faire exploser la facture. Trouver du bois aussi, trouver des pellets, c'est aussi l'autre inquiétude pour beaucoup. Est-ce que vous avez fait vos calculs? Est-ce que vous êtes certain de bénéficier, tiens, si vous chauffez au bois, des aides du gouvernement cette année? Vous n'hésitez pas, vous aussi, vous prenez la parole ce matin, vous témoignez au 32-16 ou sur l'appli RMC, hein, sur Direct Studio. Dites-nous, tiens, combien il fait par chez vous ce matin? À peine 2 degrés là du côté de Digne cette nuit pour Pascal. Combien il fait chez vous ce matin? Est-ce que vous chauffez toute la maison correctement? Vous nous le dites au 32-16. Et puis à 5h18, on va quand même se détendre un peu. On va se réchauffer en rigolant sur RMC tous les matins. C'est Arnaud Demanche qui s'en charge, le meilleur d'Arnaud Demanche. C'est tout de suite sur RMC.
RMC, Charles Matin.
C'est tous les jours de manche.
Alors, une nouvelle qu'on ne voit pas passer tous les jours, il y a de la censure dans le monde du jeu de société.
Oui, on croirait pas que ça puisse faire les gros titres de la presse, hein. Le monde du jeu de société. C'est un peu comme si je vous annonçais un scandale de dopage au Scrabble ou qu'un candidat de question pour un champion avait empoisonné son adversaire pour réussir à avoir une encyclopédie Larousse, champignons, mousse et lichen d'Amérique du Sud. Bref, à la suite de l'indignation d'un syndicat de police et de députés d'extrême droite, la FNAC a retiré de la vente un jeu antifasciste intitulé Antifa, le jeu. Là, si on doit virer de la FNAC tout ce qui pose problème à la police, il va pas rester grand chose. Tout le rayon rap, déjà. Allez hop. Les coffrets DVD de Police Academy, ça dégage. GTA Vice City, au revoir. Les disques de Brassens et de Renault, terminé. Alors, ce jeu donne une mauvaise image de la police, mais bon, ça, la FNAC, ça l'a jamais gêné, hein. Elle vend des DVD de Julie Lescaut. Ça donne une bonne image de la police, ça? On peut aller loin comme ça. Est-ce que le Père Noël est une ordure? Ça donne une bonne image du Père Noël. Est-ce que les films avec Christian Clavier, ça donne une bonne image de Christian Clavier? Après, on va pas caricaturer la FNAC. Elle ne censure pas tout. J'ai fait mes petites recherches. On peut y trouver sans aucun problème des bouquins négationnistes ou néofascistes. Il y a des rayons entiers de livres qui expliquent qu'on peut soigner le cancer en mangeant des carottes.
Oui.
J'ai même trouvé un bouquin, je vous jure, c'est vrai. Il fait le lien entre être séropositif et manger des pizzas. Véridique.
Ah,
et ça, ils le vendent. Il n'y a pas de problème.
Okay. C'est bon.
Alors, aussi, autre question, est-ce que les jeux peuvent influencer les enfants à ce point? Moi, quand j'étais petit, je voulais pas devenir plombier parce que je jouais à Super Mario. Hein. Non, je voulais devenir plombier parce que je regardais les films érotiques de M6. Monsieur le plombier, j'ai une fuite chez moi. Alors, les opposants à ce jeu ont décidé de sortir une version où la police a le beau rôle contre les antifas. Je vous laisse découvrir la pub. Salut les mini-justiciers! Pour Noël, faites respecter l'ordre et la loi contre les woke bobo-trotskistes avec CRS, le jeu 64 cartes, un plateau, une matraque et une fausse moustache pour gagner face à l'équipe des fils de bourgeois en rébellion qui squattent en sarouel déchiré devant des monoprix. Une crasseuse à cheveux roses rase des OGM au lieu de se raser les dessous de bras, carte prison. Émilien de Montalivet s'est laissé pousser les dreadlocks et manifeste contre les méga-bassines, carte garde à vue. Améliore ton équipement en accumulant le maximum de points dans la figure d'une non-binaire en surpoids et un t-shirt justice pour Adama. Tout de suite, l'avis du concepteur du jeu, Didier Lallemand.
Bonjour les enfants. J'ai joué à CRS, le jeu, avec mon petit neveu ce week-end. Il incarnait le gauchiste et moi le policier. Eh ben, il a fait que chialer, sous prétexte que j'ai passé toute la partie à l'asperger avec du gaz lacrymo. Mais moi, je me suis beaucoup amusé.
Je sais pas si on va le trouver au pied de beaucoup de sapins, ce truc. Hein. Enfin, vous faites ce que vous voulez pour vos enfants.
RMC, Charles Matin.
C'est tous les jours
et
de
on
manche.
On se retrouve tout à l'heure. On a hâte déjà de retrouver Arnaud de Manche à 7h20 pour pirater le 32-16 et à 8h20 pour C'est tous les jours de manche avec Apolline dans Apolline Matin. 5h24, allez, c'est l'heure de vous gâter.
RMC,
la voix du jour.
Et c'est Jean-Claude qui a été le plus rapide ce matin. Oh là là, Jean-Claude, il y a beaucoup d'écho. Est-ce que vous m'entendez, Jean-Claude?
Oui, je vous entends très bien.
Est-ce que vous n'êtes pas sur haut-parleur ou quelque chose comme ça, là, Jean-Claude?
J'ai enlevé, c'est bon.
Ah, c'est bon, on s'entend très bien. Comment ça va ce matin, Jean-Claude?
Oui, ça va très bien, très bien.
Jean-Claude, vous êtes dans les Vosges, mécanicien, ouais. C'est ça, du côté d'Épinal. C'est le début de journée ou fin de journée, là, pour vous?
Là, je suis encore chez moi.
Alors, vous savez ce qu'on va faire? Vous avez appelé parce que vous pensez avoir reconnu la voix du jour. On réécoute, on aura votre réponse dans la foulée, Jean-Claude.
On a l'assurance d'être en huitième et ne pas avoir la nécessité d'aller chercher un point en plus. Cette situation me permet d'être dans de la gestion. Des changements, oui, il y en aura. Combien, vous le saurez pas. Et l'adversaire, surtout, ne le saura pas.
Alors, Jean-Claude, qui parle?
C'est Monsieur Didier Deschamps.
Eh oui, eh ben Monsieur Jean-Claude, c'est gagné. Bravo, grâce à Didier Deschamps, vous allez repartir avec...
Une montre champion de la marque Kelton, conçue et assemblée en France. Magnifique montre en croco marron avec les deux étoiles.
Eh ben voilà, la montre Kelton, elle est pour vous Jean-Claude, on vous l'envoie du côté d'Épinal.
Oui.
Eh ben, elle part tout de suite, ne quittez pas Jean-Claude, on prend vos coordonnées hors antenne et puis on vous envoie la montre dans les Vosges. Et la Voix du jour revient évidemment dès demain pour récompenser les leftos sur RMC.
La Voix du jour sur RMC avec Kelton, la marque de montre iconique et assemblée en France. Vous changez? Changez de Kelton.
Allez, 5h26, les infos et la météo approchent sur RMC, mais c'est l'heure de la petite info bonus avec Anaïs. Anaïs, bah, je sais que l'adolescente qui est en toi a vibré en découvrant cette info hier. Ouais. Pascal Obispo remonte sur scène pour fêter ses 30 ans de carrière.
Oui, Charles, tu sais ce qu'il a lancé? Quel tube l'a lancé? Plus que tout au monde, en 92. Tu avais quel âge en 92?
Bah, j'étais pas né, évidemment.
Mais bien sûr, c'est ça, ouais.
J'avais 6 ans, ouais.
Ouais, c'était il y a 6 ans. Il y a quel âge, donc? C'était il y a combien de temps, pardon?
Il y a 30 ans.
Ouais, c'est ça, ouais.
Bah si, 92, c'était il y a 30 ans, je suis sûr.
Oui,
moi, j'avais 6 ans.
Toi, c'était il y a 30 ans. Non, mais c'était il y a combien de temps? Donc, tu es né?
J'ai 36 ans.
36 ans, bref.
On est sur un bon quiproquo.
Oui, oui,
mais
exactement.
C'est juste le blanc.
Oui, exactement. Un petit peu, c'est un peu ça. 30 ans plus tard, le chanteur de 58 ans annonce une grande tournée dans tout le pays en 2023 pour fêter sa belle carrière avec 28 concerts. Et il y aura Amiens, Bordeaux, Rouen, Lille ou encore Marseille. Et il y aura deux dates à la scène musicale à Paris. Ça commencera en octobre 2023. Il va interpréter ses plus grands tubes, notamment celui-là. Je suis tombé pour elle. Je n'ai dit que pour elle. Mais aussi Lucie, Millésime, Personne. Et il pourrait aussi chanter des titres qu'il a écrits pour les autres. Parce que oui, il a écrit par exemple pour Johnny, Florent Pagny ou encore Natacha Saint-Pierre. Les places seront mises en vente vendredi. Si
Pascal Obispo donc sur scène, 30 ans de carrière et oui et autant de tubes, hein, y en a un paquet. Hein, oui, quand tu dis Millésime, Lucie, fan, tombé pour elle.
Et qu'on soit fan ou pas, on les connaît, on connaît les paroles.
Dis la vérité, Géraldine Debory chante depuis tout à l'heure dans ce studio. Oui, on les connaît toutes, évidemment.
Et là, j'aime bien.
Et ben voilà. Et ben, on va voir si vous aimez les températures que va vous annoncer Géraldine. C'est dans un instant sur RMC.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
Il est 6h20. Bon réveil sur RMC. Alors aurez-vous les moyens de vous chauffer correctement cet hiver ?
C'est la question du jour sur RMC.
Ça y est, nous sommes dans les normales de saison, comme le dit Géraldine Demory, ce qu'on peut traduire par sacaille. Ça y est, il fait très froid, la France grelotte ce matin et chacun s'inquiète de la manière de se réchauffer. Première inquiétude, l'alimentation, l'approvisionnement en gaz et en électricité cet hiver, alors que le réseau électrique pourrait connaître de fortes tensions. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a annoncé la couleur hier. Des efforts pourraient être demandés au mois de janvier aux Français et aux entreprises.
Les semaines et les mois à venir vont être marqués par une hausse naturelle de la demande en électricité, particulièrement en raison des besoins de chauffage. Nous garderons à chaque fois les moyens d'éviter de recourir à des coupures en adaptant nos comportements. Et si nous sommes en territoire concerné par le risque, par exemple, il pourra nous être demandé, dans les horaires qui sont les plus demandeurs d'électricité, d'éviter de faire tourner le lave-linge ou de décaler un peu l'allumage de la plaque de cuisson pour éviter qu'on se retrouve dans des situations, même temporaires, qui sont plus délicates.
Voilà, on est prêt à allumer, à attendre 3 heures du matin pour allumer la plaque de cuisson, Anaïs. On va voir si les Français adoptent les gestes de sobriété les jours de grande tension. Il faudra peut-être décaler l'allumage de la plaque ou de la machine à laver cet hiver pour éviter les coupures. Est-ce que vous allez respecter ces consignes quand elles vont arriver? Est-ce que déjà vous avez des gestes de sobriété à la maison? Mais au-delà de la crainte sur la coupure, sur l'approvisionnement en énergie, il y a d'abord la crainte aujourd'hui de la facture, du pouvoir d'achat. Est-ce que vous aurez les moyens de vous chauffer correctement cet hiver? Pour ça, le gouvernement a annoncé différentes aides ces derniers jours, ces dernières semaines. La dernière annonce en date, c'est cette aide pour les Français qui se chauffent au bois.
Oui, les Français qui se chauffent au bois vont bénéficier d'une aide de l'État dès le 22 décembre, une aide destinée aux ménages qui se chauffent aux bûches et aux pellets qui ont vu leur prix exploser ces derniers temps, plus 50% pour les pellets sur un an. Ce sera une aide de 50 à 200 euros destinée aux Français dont les revenus n'excèdent pas 2260 euros par mois pour une personne seule et 4750 euros pour un couple avec deux enfants.
Voilà, pour cette aide, ce chèque, entre 50 et 200 euros pour ceux qui se chauffent au bois. D'ailleurs, dites-nous au 32-16 si vous avez fait vos calculs, si vous allez en bénéficier, est-ce que vous allez facilement trouver du bois, des pellets pour vous chauffer cet hiver. Et puis pour les autres, Anaïs, ceux qui se chauffent par exemple au gaz ou à l'électricité, il y aura le bouclier tarifaire.
Oui, le bouclier tarifaire qui est reconduit pour 2023. Il permet de limiter la hausse des tarifs du gaz et de l'électricité à 15% pour les particuliers. Jusqu'à présent, les HLM et les copropriétés n'en bénéficiaient pas, mais ils vont être logés à la même enseigne dès le début de l'an prochain. Annonce d'Olivier Klein, ministre délégué au logement hier, et ce sera rétroactif. La hausse des charges cette année sera en partie compensée lors de la régulation en 2023. Ce sont les syndics et les bailleurs sociaux qui feront les demandes et qui devront redistribuer les sommes. Mais en attendant, les copropriétaires devront avancer les frais.
Et l'annonce a donc été faite hier. Il y avait urgence, car de nombreuses copropriétés en France sont en ce moment dans la galère. Exemple ce matin du côté de Toulouse, où des copropriétaires se retrouvent aujourd'hui sans chauffage en raison de la hausse annoncée du prix du gaz. Avec une facture multipliée par 8, les copropriétaires n'ont pas voulu souscrire le nouveau contrat exorbitant. Ils ont donc choisi pour l'instant de ne pas allumer le chauffage collectif. Reportage Jean-Wilfried Forquès.
13 degrés à l'extérieur et un degré de plus à peine dans l'appartement de Julien.
Alors dans l'appartement actuellement, il fait 14 degrés le matin.
Pour éviter d'avoir froid, Julien fait appel au système D.
Du coup, on essaye d'y arriver en ayant des petits soufflants ou des radiateurs à bain d'huile, en se mettant des bonnets, en s'habillant chaudement.
D'autres copropriétaires, comme Caroline, ont décidé d'investir dans le tout électrique pour ne plus dépendre du chauffage collectif.
Donc nous, on a installé des chauffages électriques à énergie fine. Et aujourd'hui, on s'y retrouve largement entre l'augmentation du prix du gaz et celui de l'électricité, et même le coût de nos travaux.
En attendant, selon Marc Carsenac, le syndic de copropriété qui gère la résidence, la solution serait le bouclier tarifaire comme le propose le gouvernement, mais avec application immédiate.
Je pense qu'il faut plus de rapidité. Les gens, ils ont besoin du bouclier tarifaire aujourd'hui, pas dans un an, pas dans deux ans. Et ça, on ne sait pas quand c'est que on va avoir ce retour du bouclier tarifaire. Il y a urgence, oui.
Une nouvelle assemblée générale des 57 copropriétaires est prévue le 12 décembre prochain. D'ici là, les températures seront bien inférieures à 10 degrés.
Voilà, reportage dans cette copropriété qui a froid, tout simplement, du côté de Toulouse avec Jean-Wilfried Forquès. Et c'est vous maintenant au 32-16 qui allez nous dire comment vous voyez arriver l'hiver. Est-ce que vous allez avoir les moyens de vous chauffer correctement? Combien il fait par chez vous ce matin? Tiens, on va filer dans l'Aube, retrouver Jean-François qui est peut-être déjà sur la route à cette heure-ci. Bonjour Jean-François.
Bonjour les GG.
Ça va Jean-François, chauffeur poids lourd, c'est ça?
Oui, c'est ça, chauffeur poids lourd à Ouassy, qui prend la route tous les matins pour faire 130 km aller, 130 km retour pour aller travailler, parce que j'adore mon boulot, je suis un bosseur, je me réveille tôt, il n'y a rien qui me fait flipper. Quoi.
Avec RMC dans le camion, c'est ce que j'entends. Et alors comment vous faites à la maison en ce moment? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'on a froid?
À la maison... On fait les choses normalement. On a, bon, comme je disais tout à l'heure là, on a le poêle à granuler, pompe à chaleur. Et nous, on a fait installer tout ça parce que vu par rapport à l'écologie, quoi, et puis le prix de l'électricité.
Mais ça, c'est des investissements que vous avez fait du coup il y a un bout de temps là. Vous n'avez pas improvisé ces dernières semaines, j'imagine.
On a fait ça l'an dernier avec l'État. Hein, on a profité parce que l'État il nous aidait. On a profité. On a fait mettre ballon thermique solaire, poêle à granuler. Et puis bon, et puis comme c'est une maison qui un peu neuve, on était chauffé avec pompe à chaleur, quoi.
Ah oui, donc vous avez tout là, pompe à chaleur, les granulés, les panneaux solaires, oui. Et une maison, j'imagine, vous me dites, comme elle est neuve, elle est bien isolée a priori.
Elle est bien isolée, mais sauf que par rapport au tarif bloqué là. Nous on régulé, était avec ouais. Tout ça, oui, avec tout ça, nous on avec tout ça, parce que vu bon la pompe à chaleur quand même, on payait l'électricité à 185 euros par mois. Mais ouais. On a profité de l'aide de l'État pour mettre le poêle à granuler, tout ça, et on était descendu à 45 euros, 60 euros, c'était varié, quoi, par mois.
Ouais.
Et que par rapport au tarif qu'ils ont mis le gouvernement en place, là, bloqué, là. Eh ben on est passé à 16 euros.
Ouais, alors j'ai envie. Bon,
c'est 116 euros par mois.
Oui, ah oui, 116 quand même. Ça fait ouais, beaucoup. C'est... Ça fait, c'est oui. Pas négligeable comme hausse. Mais ça, oui. Le gouvernement vous dira, ça reste limité par rapport à ce que ça aurait été s'il n'y avait pas ce bouclier tarifaire. Ça serait peut-être passé, je sais pas, à 200, 250 euros. Le gouvernement oui. Vous dirait, bah là, on limite la hausse. En effet, ça va augmenter. Mais donc voilà, vous savez déjà, vous avez déjà fait les calculs, anticipé vos factures pour décembre, janvier, février. Jean-François, vous arrivez à peu près à voir dans le budget comment vous en sortir pour chauffer correctement. Mais du coup, avec tout ce que vous avez à la maison, là, le oui. Poêle à granuler, les panneaux solaires, la pompe à chaleur, vous arrivez à chauffer toutes les pièces tranquillement. Vous posez pas trop la question ou vous faites attention dans chaque pièce, il y a un thermostat.
Ah ben oui. Même comment les radiateurs des chambres, ils sont pas allumés.
D'accord.
Déjà les petits, ils aiment pas dormir avec la chaleur. Mm-hmm. Ils supportent pas. Alors d'un côté, ça m'arrange.
Oui, voilà, c'est gagnant-gagnant.
C'est gagnant-gagnant. Mais je trouve que on a du mal à s'en sortir quand même. C'est dur.
Bah ça et l'hiver va être difficile pour tout le monde évidemment au niveau des factures d'énergie. Vous avez déjà calculé la hausse, voilà, ça va passer à 116 euros contre une soixantaine actuellement. Jean-François, je vous remercie d'être passé par le 32-16 parce que c'est très concret avec vous. On a déjà voilà l'anticipation des factures. Vous savez déjà de combien ça va augmenter dans les mois qui viennent. Tout le monde n'a pas cette visibilité parce qu'on nous parle d'aides, de chèques qui vont être versés fin décembre pour ceux qui chauffent au bois, etc. Le bouclier tarifaire, ça va être plus 15%. Est-ce que vous arrivez déjà, vous, à savoir Combien ça va faire grimper votre facture dans les semaines qui viennent? C'est la question qu'on se pose tous ce matin. Jean-François qui nous dit, j'arrive encore à pas chauffer certaines chambres, celles des enfants, etc. Comment ça se passe, vous, à la maison, avec ce froid qui gagne toute la France aujourd'hui? Vous n'hésitez pas à venir nous le dire. Je vous remercie, Jean-François, d'être passé par le 32-16. On vous souhaite bonne route aujourd'hui, Jean-François, si j'ai bien compris.
Eh ben, je vous remercie beaucoup et une bonne journée à tout le monde. Et puis, allez les Bleus!
Et allez les Bleus, évidemment, tout à l'heure. France-Tunisie, ce sera à vivre sur RMC en direct. Coup d'envoi à 16h et Jean-François sera fidèle. Je l'entends sur RMC. Allez les Bleus, évidemment, on va continuer à en parler toute la matinée sur RMC. Et puis tiens, justement, dans un instant, dans C'est déjà demain, il me semble qu'on va parler foot avec Anthony Morel.
Mais bien
bonjour
sûr.
Anthony.
Bonjour. Ben oui, le foot, c'est un sport de plus en plus connecté. Et même le ballon de la Coupe du Monde, figurez-vous, c'est un petit bijou de technologie, vous le saviez peut-être pas.
Ah bah non.
Ben, je vais vous apprendre pourquoi.
C'est un robot?
C'est pas un robot. Non, ça sera peut-être pour la prochaine Coupe du Monde, ça.
Oui, c'est quand même encore Kylian Mbappé qui le dirige.
Normalement,
c'est
oui.
Pas
normalement,
une télécommande. Ouais. Ok, on n'en est pas là, mais pourquoi pas un jour? C'est ce que va nous expliquer Anthony Morel dans un instant, et puis ensuite il y aura l'histoire d'Arthur. Bonjour Arthur Arsca.
Bonjour Charles, moi je vais te parler d'une juge colombienne très très coquine.
Oh. Il a fait sa voix grave et tout exprès, je le connais,
c'est
moi.
C'est juste mais c'est tout.
Ok, oui, oui, vivement le voyage en Colombie dans un instant sur RMC. À 5h51 sur RMC, si vous venez de vous réveiller, voici les trois infos à retenir ce matin avec Anaïs Castaner.
L'équipe de France déjà qualifiée pour les huitièmes de finale du Mondial au Qatar affronte la Tunisie aujourd'hui. Match à suivre à partir de 16h sur RMC. Hier, les États-Unis se sont imposés 1-0 contre l'Iran et les Anglais se sont imposés 3-0 contre le Pays de Galles. La première ministre Elisabeth Borne lance un appel solennel au respect des gestes barrières alors que la France fait face à une nouvelle vague de Covid-19. Elle demande aux Français de remettre le masque dans les transports en commun. Et puis la baguette devrait être classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est sans doute imminent. L'annonce devrait avoir lieu dans la matinée.
Et puis, à 5h51, bah c'est l'heure de parler foot avec un homme qui n'y connaît rien. C'est Anthony Morel.
Il me tue déjà demain.
C'est pas non, mais on va pas se mentir,
non,
Anthony.
C'est vrai, c'est pas ma spécialité.
Ton domaine, c'est pas le foot, c'est plutôt la technologie. Mais justement, le foot est un sport de plus en plus technologique. Et cette Coupe du Monde en est une illustration frappante. D'ailleurs, même le ballon officiel, celui qu'on voit là pendant tous les matchs, est un ballon connecté.
Ouais, c'est ça. Alors, il a l'air tout à fait normal. Et d'ailleurs, pour les joueurs, ça ne fait absolument aucune différence. Il fait le même poids qu'un ballon normal, mais c'est un petit bijou de technologie. Un ballon connecté, il est bardé de capteurs électroniques. Il y a des capteurs à l'intérieur du ballon qui sont censés aider les arbitres à prendre les meilleures décisions, alors notamment pour les hors-jeux. En fait, ces petits capteurs de 14 grammes vont analyser la position du ballon 500 fois par seconde. Et à chaque fois qu'il y a une touche de balle, ils vont envoyer cette information vers 26 antennes qui sont positionnées autour du terrain. Ces informations, on va les coupler avec les positions des joueurs. Et ça, elles sont captées par 12 caméras, des caméras qui analysent la position de chaque joueur 50 fois par seconde. Donc on a vraiment une tonne d'informations. Et les arbitres vidéo, eh bien, vont recevoir, grâce à ça, des alertes automatiques pour leur indiquer quand il y a hors-jeu. Et donc, en gros, en combinaison avec la fameuse VAR...
Parce que j'aimerais préciser quelque chose, j'en profite, quand il y a sur la règle du hors-jeu, à chaque fois, on s'arrête sur le moment où on aligne les joueurs pour voir s'il est derrière ou pas le dernier défenseur. On voit toujours cette image avec la ligne. Mais ce qui est important, c'est que cette image, elle doit être arrêtée au bon moment où le ballon quitte le pied du passeur. Et ça, jusqu'à présent, c'était un œil humain qui décidait de faire pause sur l'image.
Exactement. Et c'est le problème de la VAR, en fait.
Si le ballon avait vraiment quitté le pied du passeur ou pas.
T'as tout à fait bien résumé le problème. Et du coup, l'intérêt de la technologie, c'est ça. C'est que pour le coup, tu as un œil numérique qui est, j'allais dire, infaillible, ou en tout cas beaucoup moins faillible que l'œil humain. Et donc, tu peux prendre une décision qui est beaucoup plus juste, forcément. C'est tout l'intérêt de ce ballon connecté.
Ouais, l'intérêt de la technologie, c'est aussi d'avoir un suivi très précis de la performance des joueurs, j'imagine.
Alors, bien sûr, et alors, je ne sais pas si vous le savez, mais les joueurs, alors c'est la première fois là aussi, ils ont en fait accès à une application qui leur est dédiée, une application qui s'appelle FIFA Player App, qui va leur permettre, dès le coup de sifflet final, d'avoir sur leur smartphone toutes leurs statistiques détaillées. C'est-à-dire que voilà, le match est terminé, ils vont avoir des cartographies du terrain qui vont montrer leur présence à chaque point du terrain, le nombre de sprints qu'ils ont réalisés, leur vitesse maximale, la pression qu'un attaquant a exercée sur la défense adverse par exemple. Ils vont même avoir des petits montages vidéo de chacune de leurs touches de balle captées par différents angles, des photos qu'ils peuvent partager sur les réseaux sociaux, parce que c'est important évidemment. Donc c'est une sorte de petit débriefing personnel qu'ils ont à travers cette application qui est une première, et ça va venir s'ajouter aux données massives qui sont analysées. Vous savez que maintenant dans les équipes vous avez des data scientists, des informaticiens qui font partie du staff au même titre que les médecins et qui récupèrent plein d'informations, notamment pendant les entraînements. Les joueurs ont des trackers GPS dans leur maillot. Enfin, il y a plein d'informations qu'ils ont récupérées. Ouais. Et ça, ça permet à la fois d'analyser leur performance et surtout, bah, par exemple, de les faire sortir au bon moment. On va voir exactement quand le joueur entre dans le rouge et donc le moment où il risque de se blesser. Donc, c'est des éléments qui sont de plus en plus importants.
Il ne peut pas tricher et dire au coach, je me sens bien. Il y a toutes les données sur l'ordinateur qui montrent qu'il a plus de force.
Exactement. Mais il y a plusieurs questions. D'abord, est-ce que ça marche? Première question. Et puis, est-ce que ça finit pas par dénaturer le sport?
Alors, sur la question de l'efficacité, oui, ça fonctionne. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'était un des membres du staff technique de l'équipe d'Allemagne en 2014. Hein, donc, l'Allemagne avait remporté la Coupe du Monde. Finale Allemagne-Argentine. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, la situation, 88e minute, on est à 0-0. Et là, le sélectionneur fait entrer Mario Götze. Et Mario Götze va marquer le but de la victoire. Donc, c'est un coup de génie du sélectionneur, d'une certaine manière. Et en fait, cette décision, eh ben, on le sait, elle est due en partie à la technologie. À l'entraînement, les Allemands utilisaient des capteurs électroniques qui analysaient en permanence toutes les actions, le rythme cardiaque, la vitesse, le nombre de sprints. Et c'est à partir de ça, eh bien, que le sélectionneur a pris la décision en partant du principe que Götze avait l'explosivité qui pouvait faire la différence à ce moment-là du jeu.
C'est l'ordinateur qui lui a dit la bonne idée, c'est exactement. De faire rentrer Götze à la toute fin. D'ailleurs, il a marqué en prolongation. Exactement. C'était le bon moment pour le faire rentrer.
C'est toujours l'humain qui a pris la décision, si tu veux, mais c'est une décision qui a été assistée par informatique.
Bah voilà, est-ce que les coachs maintenant vont regarder les matchs avec la tablette à la main? Est-ce qu'à la fin ça va dénaturer un peu le côté humain, surprenant les belles histoires du sport? On verra, mais pour l'instant on prend quand même plaisir à suivre cette Coupe du Monde. La technologie n'a pas encore gâché le plaisir. Merci Anthony Morel pour ce ballon, cette Coupe du Monde connectée à 5h56. On part en Colombie.
RMC, Charles Matin. L'histoire d'Arthur.
Oui, c'est Arthur Asquin qui a choisi ce matin de nous raconter une histoire qui allie ses deux grandes passions, n'est-ce pas Arthur?
Oui.
La justice et les petites tenues.
Oui, je vous présente Viviane Polenia, une juge colombienne. La semaine dernière, elle doit participer à une audience concernant une affaire, alors très grave, hein, c'est un attentat à la voiture piégée. Les débats ont lieu à distance via l'application Zoom. Mais lorsque la webcam de la juge s'allume, elle apparaît allongée dans une tenue plutôt coquine, en train de fumer. Les avocats et le prévenu constatent qu'elle est dans un état assez déplorable. Elle a beaucoup de difficultés à s'exprimer. Et au bout de quelques instants, la webcam se coupe.
Elle a eu des ennuis ?
Suspension de 3 mois.
Quand même.
Viviane Polenia s'est ensuite défendue dans les médias. Elle explique qu'elle avait dû s'allonger à cause d'une brutale chute de tension doublée d'une crise d'angoisse. Ça pourrait s'entendre, mais la magistrate au physique avenant a un passif. Il suffit d'aller faire un tour sur son compte Instagram. Dans une vidéo, elle apparaît dans une tenue sexy en train de, je dois le dire comme ça, sucer une pâtisserie en forme de pénis. Elle publie aussi des photos où elle porte des combinaisons SM.
Insulte-moi en allemand.
Et il y a aussi de moult clichés où elle se présente dans des poses très très suggestives.
Ceci, ma gueule, c'est une levrette.
Bon, après, elle fait ce qu'elle veut, hein, j'ai envie de dire, dans sa vie privée.
Oui, et ses très nombreux abonnés sur Instagram sont sûrement du même avis.
On peut être une très bonne juge et avoir une vie agréable sur Instagram.
Instagram, c'est pas la vie privée, c'est la vie publique.
Absolument, mais ses abonnés sont sans doute du même avis. En tout cas, Viviane Polenia, elle a déclaré qu'elle ne changera jamais sa façon d'être, malgré les critiques de ses collègues magistrats.
I'm sexy and I know it. Et je redonne le nom, donc Viviane Polenia.
Le nom du compte Insta aussi.
Oui, voilà, c'est pour ça que je donne le nom. Voilà.
C'est très intéressant.
Donc, si vous voulez approfondir l'enquête d'Arthur,
vous tapez Viviane Polenia et vous trouverez
Les bons conseils d'Arthur. De gros matins. Et puis à 5h58, l'info bonus d'Anaïs, c'est Indochine qui annonce une tournée des festivals.
Oui, après leur tournée des stades pour leurs 40 ans, le groupe a annoncé hier une tournée des festivals d'été en 2023 avec Sidat en France. Ils seront notamment aux Eurocaennes de Belfort le 2 juillet, à Beauregard le 5 et aux Déferlantes le 8. La billetterie ouvre vendredi pour toutes les dates, sauf pour les Eurocaennes. Ce sera le 12 décembre prochain.
Et Indochine qui a cartonné aussi, qui cartonne au cinéma avec Central Tour.
Oui, jusqu'hier, une plongée dans un des concerts d'Indochine était proposée dans plus de 450 salles. Ça a très bien fonctionné. 150 000 billets vendus. C'est un record pour ce type d'événement. Et ça s'est même classé en tête du box-office français devant Black Panther 2. N'avait pas
fier à lui. Carton au cinéma pour Indochine, carton programmé dans les festivals l'été prochain. Ouais, Indochine, incroyable succès qui ne se dément pas au fil des années. Son succès, elle non plus, ne se dément jamais. C'est Géraldine de Mori qui sait tout du ciel et surtout des températures du jour.
Et des températures bien frisquettes, hein, ça y est. Alors on est dans les normales, oui, d'accord, mais comme...
C'est le terme scientifique, bien frisquette, c'est ça? C'est comme ça que le dit Météo France?
Je ne suis pas sûre que ce soit le terme scientifique, mais en tout cas, ça va être ce que vous allez ressentir en sortant de chez vous. Moins 2 degrés à Brignoles, là tout de suite maintenant, 2 degrés degrés à Marseille. Cet après-midi, on sera entre 7 et 10 degrés en général, avec 8 à Lille, à Paris, à La Rochelle, Toulouse, 9 à Bordeaux, Lyon, Nantes, 10 à Brest. On ira jusqu'à 13 degrés pour Marseille, 15 à Nice, 16 pour Ajaccio. Avec beaucoup de brouillard ce matin, beaucoup de grisaille. D'ailleurs, c'est une grisaille qui va rester vraiment très tenace hein, sur une large moitié nord. Le long de la Garonne aussi, ça aura un peu de mal à se dissiper, mais globalement, sinon de l'Aquitaine à la Méditerranée jusqu'aux Alpes du Sud, ce sera un temps bien ensoleillé. Et puis le froid, on n'a pas fini d'en parler, puisque demain, 1er décembre, on va passer sous les normales de saison et les températures continueront de baisser jusqu'au week-end qui sera vraiment glacial sur la moitié nord, à moins 1 degré de moyenne au nord dimanche matin.
Mercredi 30 novembre,
l'info sur RMC.
Il est 6h, bon réveil à tous, bienvenue sur RMC, c'est l'heure de votre journal qui vous est présenté par Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Le Covid risque-t-il de gâcher Noël? Le gouvernement donne l'alerte. Alors que les Français boudent la quatrième dose, seuls 20% des plus de 80 ans sont bien protégés. Le match des coiffeurs, les Bleus déjà qualifiés affrontent la Tunisie, ça sera à 16h. Et puis la baguette à l'honneur, presque un monument, elle devrait être inscrite aujourd'hui au très prestigieux patrimoine immatériel de l'UNESCO. Le Covid revient et les Français ne se font plus vacciner. À moins d'un mois de Noël, tous les voyants sont au rouge. Plus 40% de cas en une semaine, un nouveau variant et une couverture vaccinale très faible chez les plus vulnérables. Seuls 20% des plus de 80 ans sont bien protégés. Le rappel, la quatrième dose, les seniors semblent l'avoir oublié. Martin Cadoret à Paris pour RMC.
Persuadé d'avoir eu des effets secondaires après ses trois premières doses, Yannick ne veut surtout pas s'en faire injecter une quatrième.
J'ai plus confiance là. Au départ, je me suis fait vacciner. Et maintenant, de continuer quatrième, et après peut-être une cinquième, une sixième, non. Si c'est pour nous faire vacciner jusqu'à la fin de notre vie, non.
Quand on creuse un peu, les arguments sont souvent légers.
Je crois qu'avec trois doses, on est quand même protégé.
Eh bien non, Nicole, l'efficacité du vaccin décroît avec le temps. Nicole qui avait reçu ses doses l'année dernière pour avoir son passe vaccinal.
Les trois premières, en plus, il y avait une obligation. On ne pouvait plus sortir, on ne pouvait plus rien faire. S'il y avait un passe vaccinal de nouveau obligatoire, oui, certainement, que je serais obligé de le faire, oui.
Derrière son masque, Amar se demande si cette quatrième dose est vraiment utile, car il ne voit plus grand monde dans son entourage contracter le virus.
Comme ça s'est calmé, je vois pas pour l'instant l'utilité, j'ai jamais eu le Covid, d'ici 15 jours, 3 semaines. Si je vois que ça repart, je vais passer, je vais la faire.
Et pourtant, le nombre de cas augmente fortement. De nombreux seniors inquiets se résignent donc à pousser la porte de la pharmacie de Lienfan.
Ils ont des résistances, ils posent des questions. Ce qui les inquiète, c'est la fièvre, les courbatures et puis les effets secondaires. Je les rassure puis ils se font leur rappel très 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 facilement.
À tel point que le pharmacien a dû rajouter des jours de vaccination dans son planning.
Le gouvernement qui s'inquiète aussi d'une triple épidémie, Covid, grippe, bronchiolite. La première ministre a solennellement recommandé de porter un masque dans les lieux de promiscuité comme les transports en commun. C'était hier à l'Assemblée nationale. L'affaire Caroline Cayeux prend de l'ampleur. Fraude fiscale, évaluation de son patrimoine mensongère. Caroline Cayeux devra répondre devant la justice. La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique a transmis son dossier. L'ex-ministre délégué aux collectivités territoriales qui a démissionné lundi, je vous le rappelle, aurait minimisé la valeur de plusieurs biens immobiliers. Et puis à Washington, Emmanuel Macron est arrivé cette nuit pour une visite d'État de 3 jours. Au menu des discussions avec Joe Biden, la guerre en Ukraine et les relations commerciales avec l'Europe. Tout de suite, on prend la direction du Qatar.
Coupe du monde de la FIFA 2022.
Ça se précise, les premières affiches des huitièmes du mondial, États-Unis contre Pays-Bas et Angleterre contre Sénégal. Ce week-end, Anglais, Néerlandais et Sénégalais ont obtenu leur qualification hier. Et ce soir, on connaîtra l'adversaire des Bleus qui joue leur dernier match de poule cet après-midi, 16h, face à la Tunisie. Match sans enjeu pour la France déjà qualifiée, mais important pour les Tunisiens qui peuvent encore accéder aux huitièmes en cas de victoire. Alors, qui soutenir quand on est franco-tunisien? Dilemme à Belleville, le quartier le plus tunisien de Paris, Mao Becker avec Lola Baye.
Sur la table, un plat typique tunisien. Mais sur le terrain, cet après-midi, Titi a choisi son camp.
La France.
Ce franco-tunisien n'a pas de pitié pour son pays d'origine. Sa priorité, la première place du groupe pour les Bleus.
Parce que c'est mon pays, c'est ma langue, je suis né ici et voilà. Et j'en suis très reconnaissant. Si elle peut gagner 5-0, ça m'irait très bien.
À quelques mètres de là, au restaurant Tunis-Tunis de Belleville, c'est une autre musique qui résonne et dans sa langue natale que le patron soutient son pays.
Jibouha, allez, la Tunisie.
Montpellier.
Salah est un rare père et fils, deux générations de restaurateurs bien décidés à défendre les couleurs de leur pays.
C'est David contre Goliath, parce que la Tunisie, c'est une petite nation du football. Elle ne s'est jamais qualifiée pour des huitièmes de finale.
Un exploit encore possible en cas de victoire pour les Tunisiens. Alors Salah, le papa, demande de l'aide au sélectionneur des Bleus.
Monsieur Deschamps garde Mbappé sur le bord de touche.
En cas d'élimination des aigles tunisiens, pas de larmes sur le comptoir. Le drapeau tricolore est posé juste à côté du drapeau tunisien.
Si la Tunisie sort, on soutient la France jusqu'à la fin.
Et les matchs à vivre en direct sur RMC aujourd'hui.
Je suis à deux doigts d'aller vivre au Tunis-Tunis, ça a l'air sympa. Hein.
Franchement, il y a l'air d'avoir une bonne ambiance à 16h. Autre ambiance, ça sera Australie-Danemark. On peut aussi suivre sûrement dans un bar français. À 20h, Arabie Saoudite-Mexique. Et puis Pologne-Argentine. Il est 6h05 sur RMC. De l'eau, de la farine et du sel, simple mais redoutablement efficace. C'est la recette de la baguette, devenue l'un des symboles de la France, un savoir-faire unique, à tel point que notre baguette nationale devrait ce matin être classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Une belle reconnaissance pour les 33 000 boulangers de France.
Sortie du four pour entrer au patrimoine mondial, les baguettes de Lionel savourent.
On va la laisser chanter. Comme ça, sans se brûler les doigts.
Avec ses équipes, il cuit 700 baguettes par jour.
On est touché que notre métier soit reconnu, quoi.
La récompense aussi d'un travail acharné au quotidien.
Faut imaginer une boulangerie comme la nôtre, ça fonctionne de 3h du matin, l'arrivée du premier boulanger, jusqu'à 20h, et ça 6 jours sur 7.
En boutique, effectivement, tout le monde l'appelle.
Une tradition, s'il vous plaît.
Blanche ou bien cuite.
Ça réconforte, ça, le soir, d'avoir sa baguette, c'est top.
Des fois, j'en prends deux, puisque je suis gourmand.
Pour tous ses clients, ce savoir-faire doit être défendu face aux nouveaux venus.
C'est depuis l'apparition des panini. Les jeunes se sont habitués à manger du pain à moitié cru. Voilà. Je souhaiterais que les jeunes aiment le même pain que moi. Le vrai pain, bien cuit, croustillant.
Et c'est vrai qu'une fois sous le bras, difficile de résister.
Elle ne survivra pas jusqu'à la maison, c'est sûr. Elle sera entamée dans les deux prochaines minutes, c'est sûr.
Comme cette cliente, 12 millions de Français succombent chaque jour au charme de la baguette.
Et ça fait 320 baguettes vendues chaque seconde. Ça me donne envie de petit déjeuner.
Ouais, et moi j'ai envie que les jeux de mots d'Alfred Orange entrent au patrimoine de l'UNESCO aussi. Le patrimoine,
aussi,
comme il le dit
proposer.
Très bien. Voilà, fantastique reportage. Et oui, on a faim, évidemment, de bon matin. Sur RMC, Marguerite, on vous retrouve tout à l'heure à 7h pour un prochain journal, dont Apolline Matin. Et oui, Apolline de Malherbe arrive aux commandes d'Apolline Matin dans 20 minutes maintenant sur RMC à la radio et sur RMC Story à la télé, le canal 23 de la TNT. Et puis d'ici là, on a beaucoup de rendez-vous, Anaïs. On va retrouver Emmanuel Lechypre pour l'économie dans quelques minutes. La Story Coupe du Monde avec Thibaut Texer. On va parler du fameux match des coiffeurs. Et bien, figurez-vous que Thibaut Texer a interrogé les coiffeurs sur le match des coiffeurs. Rendez-vous dans quelques minutes, mais tout de suite.
Les éleveurs de volailles et de canards se rebiffent et votent même la désobéissance civile face aux décisions du ministère de l'Agriculture pour endiguer l'épidémie de grippe aviaire. Le gouvernement veut des mesures de confinement et même des abattages préventifs. Certains éleveurs refusent le principe de précaution.
Et bien justement, le leader de cette fronde, Serge Bousquet-Cassagne, président de la Chambre d'Agriculture du Lot-et-Garonne, est notre invité tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
Il est 6h10, bon réveil à tous sur RMC.
L'invité de Charles Matin.
Notre invité ce matin, c'est vous, Serge Bousquet-Cassagne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de la Chambre d'Agriculture du Lot-et-Garonne. Et vous êtes notre invité ce matin pour parler de l'épidémie de grippe aviaire qui touche la France depuis des mois maintenant. 770 000 bêtes abattues depuis l'été. Et pour tenter de limiter les dégâts, le ministère de l'Agriculture veut généraliser le confinement des élevages de canards et de volailles ainsi que les abattages préventifs. Mais Serge Bousquet-Cassagne, avec les éleveurs du Lot-et-Garonne, vous avez fait clairement savoir au préfet qu'il n'était pas question de vous plier à certaines des règles édictées par le ministère de l'Agriculture, hein, c'est bien ça?
Effectivement, puisque ces règles, depuis 7 ans, ça fait 7 ans que sévit la grippe aviaire en France, grippe aviaire que je qualifierais d'administrative par moment, puisque on abat préventivement avant que les animaux ne soient malades. Donc, pour préserver, paraît-il, nos capacités exportative. Bientôt, on n'aura plus rien à exporter puisqu'on a, on n'a plus de canards. Ouais. Et on ne fera que les importer. Bon. Eh bien, le confinement, l'an passé, on nous a fait confiner nos animaux. Bonjour le bien-être animal. Rien ne s'est passé. il y a eu autant, sinon plus, de grippe aviaire qu'auparavant, et on les a abattus préventivement. Ça n'a pas permis d'éradiquer la grippe aviaire, puisque elle s'est renouvelée même en été, alors qu'on nous disait que c'était possible que le virus frappe en hiver quand il faisait froid. Non, même en été. Et donc on s'est rendu compte que toutes ces solutions à la con étaient obsolètes. Et donc, du coup, on a décidé que on ne clostrerait plus, on ne confinerait plus les animaux à partir de maintenant, et on ne les abattra plus préventivement.
Alors que
le massacre des innocents.
Alors que ce sont les consignes du préfet, du gouvernement. On entend votre colère. Mais alors, qu'est-ce que vous faites s'il y a un cas de grippe aviaire qui est détecté dans votre élevage? Qu'est-ce que vous faites?
Alors deux solutions. Si le cas de grippe aviaire est détecté dans un élevage de pré-à-gavé, c'est ils sont prêts à être gavés. Donc c'est les canards que vous voyez en plein air. Par gros paquets, ceux-là, eh bien, on va les sauver. On va les attraper, nous, les agriculteurs, les éleveurs voisins. On va les emporter et les libérer. Et on les mettra soit dans un autre élevage, où on verra comment ils se comportent, s'ils meurent ou s'ils survivent à cette grippe aviaire, ou alors on va carrément les porter à la préfecture. On sera accusé de piquer-pendre. Hein.
Bah
on
sera
accusé d'avoir diffusé la grippe aviaire dans tout le département et bien ailleurs. Eh bien, peu importe, puisqu'elle s'y diffusera de toute manière, comme c'est le cas depuis 7 ans.
Bah oui, mais le préfet vous dit on peut pas rien faire, on peut pas juste laisser des territoires entiers être contaminés. Ces confinements, il le reconnaît, ça n'empêche pas tout, mais ça limite le risque.
Ça limite rien du tout, et ça surtout, ça tue les éleveurs, parce que on confine, il y a la grippe aviaire quand même, on abat les canards. Cette année, on a abattu les couvoirs, là où on nous a mené, d'où naissaient les canetons. Donc, on n'a pas pu repeupler. Donc, on a passé une année blanche. Bientôt, les éleveurs, qui n'ont pas de revenus, comme tous les autres métiers de France, cesseront petit à petit, et puis la ruralité disparaîtra, les territoires se dépeupleront eux aussi, non pas de canards, mais d'agriculteurs, de ruraux, et etc. Donc à un moment donné, il faut casser cette spirale mortifère, négative, qui fait que on abat tout par principe de précaution. Le préfet nous a dit, écoutez, depuis le sang contaminé, depuis l'affaire du sang contaminé, le principe de précaution en France, vous l'avez vu pour le Covid, est poussé à l'extrême. Et oui, c'est vrai, vous avez raison, mais on peut rien y faire, c'est comme ça. Les mentalités ont changé, il faut zéro risque partout, ça n'existe pas. Eh bien, nous, on va nous appliquer un espèce de principe, c'est le principe de survie à la fois des éleveurs et des canards.
Alors, Serge
les canards sont passés pour finir brûlés dans une usine d'incinération.
Serge Bousquet-Cassane, je rappelle que vous êtes président de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne. On entend votre colère et cette forme de désobéissance civile que vous appelez de vos voeux. Est-ce que vous allez, vous et vos éleveurs, laisser entrer les services de l'État, les services vétérinaires dans vos élevages, venir vous contrôler?
On va les laisser entrer, bien sûr, puisque ils rentreront quand il n'y aura plus d'animaux. On les aura enlevés.
D'accord.
Donc ils pourront aller vérifier qu'il n'y en a pas. Hein.
Oui, vous allez prendre les devants, si j'ose dire.
Bien sûr.
Et j'ai une dernière question, là, on l'entendait un peu. Est-ce que vous arrivez à chiffrer combien vous a déjà coûté cette grippe aviaire? Parce que vous nous dites que ça fait 7 ans que ça dure, en fait, et 7 ans qu'on durcit les mesures et qui ne sont pas vraiment efficaces, c'est ce que vous nous dites.
Un nombre de canards abattus cette année en Lot-et-Garonne, à peu près 150 000. Un nombre d'éleveurs perdus, à peu près un tiers de nos éleveurs ont disparu.
Un tiers des éleveurs ont mis la clé sous la porte à cause de cette grippe aviaire. Hein.
Absolument.
Ouais, et donc aujourd'hui, vous les appelez à ne plus respecter les règles, les consignes en tout cas sanitaires de confinement et d'abattage préventif des canards. Merci Serge Bousquet-Cassagne d'être venu témoigner ce matin en direct sur RMC, exprimer votre colère. On va voir si elle est entendue par le ministère de l'Agriculture. Je rappelle que vous êtes président de la Chambre d'Agriculture du Lot-et-Garonne et vous étiez ce matin en direct avec nous de bonne heure sur RMC. On tenait à alerter sur cette situation et cette colère, il faut bien le dire, qui gronde avec ces éleveurs qui appellent à la désobéissance civile, à ne plus respecter respecter les consignes, les règles édictées par le préfet pour lutter contre cette grippe aviaire. Il est 6h16 sur RMC. On poursuit l'actualité dans un instant avec Apolline de Malherbe qui est en train de s'installer aux commandes d'Apolline Matin. Et puis d'abord, je sais, les deux rendez-vous que vous attendez. D'abord, Thibaut Texer, la story Coupe du Monde dans un instant. On va parler du match France-Tunisie cet après-midi à 16h. Et puis, le supporter numéro 1 des Bleus, Emmanuel de Chypre, est là aussi. Salut Manu.
Bonjour à tous.
Au menu du Chypre du jour.
Eh bien, combien d'augmentation sur les offres d'embauche depuis le début de l'année? Je vous dis ça tout de suite.
C'est-à-dire d'augmentation de salaire? On va parler peu près.
Non. On parle sur les offres d'emploi.
Ok.
Quelle est l'augmentation des salaires proposés depuis le début de l'année?
Donc on va parler salaire.
On va parler salaire, mais pas augmentation de ceux qui ont déjà un boulot.
Pour ceux qui changent.
Exactement.
Est-ce que ça vaut le coup de changer? Est-ce qu'on y gagne plus en changeant qu'en négociant dans sa boîte?
Je vous dis tout.
La réponse dans un instant sur RMC.
RMC, 4h30, 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Charles Magnin.
6h19 sur RMC, c'est l'heure de votre rendez-vous éco.
Le Chypre du jour.
Avec notre monsieur économie Emmanuel Le Chypre. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Le Chypre du jour, c'est 5,8%.
Oui, c'est la plateforme d'offres d'emploi Talent qui a finalement mesuré l'évolution des salaires proposés dans les offres d'emploi depuis le début de l'année. Et on arrive effectivement en moyenne, tout secteur confondu, tout type de poste confondu, à une augmentation de 5,8% depuis le début de l'année. Il ne vous aura pas échappé, Charles, que c'est une augmentation qui correspond à peu près à celle de l'inflation qui est aujourd'hui un peu supérieure à 6%. Alors évidemment, ça varie selon les secteurs. Celui qui augmente le plus les salaires, le secteur qui va bien même quand tout va mal, c'est la finance avec 16% d'augmentation pour les propositions d'embauche.
Et 16%.
Oui. Alors qu'ils ont déjà des salaires 1%.
Alors dans certaines, oui, effectivement, ils sont plutôt bien lotis. Et puis il y a certains postes qui, effectivement, notamment dans les salles de marché, voient les salaires très vite grimper. Et puis après, il y a tous les secteurs en tension, sans vraiment beaucoup de surprises. Le BTP, par exemple, plus 9% quand même depuis le début de l'année. C'est des augmentations, revalorisations substantielles.
J'ai une question, la restauration, là, on en parle beaucoup, et les restaurateurs disent j'ai augmenté les salaires.
Oui, c'est vrai. Alors c'est vrai, les propositions d'embauche des cuisiniers, par exemple, affichent des rémunérations revalorisées de plus de 14%. Et puis on a aussi le secteur de la santé qui a beaucoup de difficultés à recruter. Et donc pour les offres d'emploi de sages-femmes, on est à plus 11%.
C'est plus que pour les salariés qui sont en poste?
Oui, effectivement, on vient d'avoir les chiffres du cabinet Mercer qui tient à jour les prévisions d'augmentation pour 2023. Et là, on est à seulement, entre guillemets, j'ai envie de dire 4%.
Donc moins que l'inflation.
Mais ce qui est intéressant, c'est que si on compare avec les autres pays européens, les augmentations de salaire ne sont pas supérieures dans les autres pays européens, mais l'inflation est très nettement plus forte chez nos voisins. Donc en termes de pouvoir d'achat, les salariés français ont plutôt tendance à y gagner. Ceux qui vont le plus revaloriser les salaires l'an prochain, c'est le secteur des mines, métallurgie, la distribution. En revanche, il y a des secteurs qui seront un peu plus radins, comme par exemple le secteur des transports.
Écoutez, mon cher Emmanuel, non mais ça me passionne. Et en fait, ce qu'on retient, c'est que si on veut vraiment faire un bond au niveau salaire, il faut changer de boulot. Oui,
absolument. C'est quand on change d'emploi qu'on fait des gros sauts de rémunération.
Oui, on le pressentait, mais là, on le constate dans les chiffres et tout est beaucoup plus clair tous les matins sur l'économie grâce à Emmanuel Le Chypre. 6h22, on part au Qatar.
La story de la Coupe du Monde.
Avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Charles, bonjour à tous.
Déjà qualifié pour les huitièmes, la France affronte la Tunisie cet après-midi à 16h. Occasion pour Didier Deschamps de laisser certains de ses cadres au repos, faire tourner l'effectif comme on dit. C'est ce qu'on appelle ce troisième match de poule quand on est déjà qualifié, le match des coiffeurs.
Une expression purement française, plutôt péjorative, qui remonterait à 1958. Selon la légende, les sept remplaçants du mondial en Suède auraient coupé les cheveux des titulaires pour passer le temps.
Mon métier, ma passion, sublimer vos cheveux.
Autre hypothèse racontée par Henri Michel en 1986, celle d'un remplaçant qui coupe les cheveux d'un autre, expliquant n'avoir que ça à faire.
À la compète, tout ça, terminé.
Pour mes cheveux, je continue l'entraînement.
Troisième et dernière hypothèse, linguistique, cette fois référence aux remplaçants qui attendent de coiffer les titulaires. Bref, c'est comme vous voulez.
En fait, c'est une rencontre sans enjeu dans une compétition internationale qui permet de donner du temps à une poignée de joueurs.
Du temps de jeu, mais aussi de les impliquer dans le projet de l'équipe. Et dans le domaine, il y a les comiques.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Bonjour.
Allez, enfants,
vous ouvrez votre cahier, page 8, exercice 4, pas de bruit.
Adil Rami en conférence de presse qui parle aux journalistes. Le défenseur n'a pas joué une seule minute en 2018, mais a contribué au succès des Bleus par sa bonne humeur jusqu'à déclencher l'alarme incendie une nuit. Ouais. Il y a donc ceux qui acceptent le statut et les autres.
J'aime pas dire le mot remplaçant ou encore pire coiffeur. C'est une décision d'une personne, d'un être humain, le sélectionneur, ce qui fait pas de vous quelqu'un de moins bon. C'est juste un choix, mais qu'il faut juste accepter cette hiérarchie donnée par un être humain.
Franck Leboeuf qui a mal vécu ce rôle, le début du Mondial 98, Jordan Veretout, lui, n'est pas du tout de cet avis.
Coiffeur, voilà, franchement, je pense que pour gagner une Coupe du Monde, c'est un groupe. On est 24 joueurs aujourd'hui. Tu dois rester concentré et puis quand on fait appel à nous, être bon sur le terrain.
Voilà, il faut être là, il faut aider les titulaires, mais coiffeur, c'est un terme qui agace particulièrement le sélectionneur.
Si vous avez votre étiquette, là, le match des coiffeurs, mais moi, j'ai pas de coiffeur. Hein.
Bon, voilà, ça c'est dit. Au fait, on peut se demander ce matin, qu'en pensent les professionnels du secteur? Eh bien, écoutez la réponse de Benjamin Staller, il est coiffeur à Strasbourg.
C'est pas très positif, parce qu'on va dire que c'est un peu l'équipe B qui va jouer, mais en même temps, c'est quand même... la crème de la crème des joueurs qui ont déjà été sélectionnés au départ. Nous, ça nous fait déjà plaisir qu'on fasse parler du métier, même si c'est de façon détournée, mais ça nous fait toujours un peu sourire.
L'humour voilà. Des coiffeurs.
Ben oui,
des coiffeurs, ben oui.
Un peu de pub, Benjamin, en tout cas, qui regardera le match cet après-midi dans son salon.
C'est les coiffeurs qui regarderont les coiffeurs jouer.
Voilà, espérons donc qu'à 16h, les coiffeurs soient créatifs dans le jeu, exemplaires sur le terrain de mèche avec les titulaires pour un succès planétaire le 18 décembre prochain.
Merci Thibaut Texer. Ah bah oui, Thibaut Texer, le don du salon est tout trouvé pour ce match des coiffeurs cet après-midi. Donc vous savez tout de la légende et de cette expression, le match des coiffeurs, ce troisième match qui compte pour du beurre. Elle ne compte pas pour des prunes. C'est Apolline de Malherbe qui nous entend depuis le studio d'RMC Story. Bonjour Apolline.
Les brunes comptent pas. Prune, mais oui, elle est là, Pauline, elle est arrivée avec son petit café, ses petits gâteaux. Je vous attends, Charles. À tout de suite, tout le monde.